Ok, Boker Tov à toutes.
D'abord, je peux dire un truc.
Oui.
Yael, on t'aime.
Moi aussi, je vous aime.
Moi aussi. D'abord, l'introduction. D'abord, je t'aime.
Moi aussi.
J'aime Rabbeinu. Voilà, je le dis, je suis trop heureuse. À chaque fois, j'ai les larmes aux yeux, tellement je suis heureuse de t'avoir rencontré, d'avoir rencontré Rabbeinu.
C'est Rabbeinu.
Et d'écouter tes cours tout le temps. Merci.
C'est pas moi qui parle, tu le sais. Hein.
Je sais.
Mais alors, moi aussi, je vous aime et je suis très heureuse aussi de voir que quand je viens, ben, vous êtes toutes là en train de vous parler, d'échanger. Et je me dis, ben, je suis heureuse parce que le plus important, en fait, c'est pas trop ce qu'on va dire maintenant, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est cet amour qui est entre vous, c'est cette amitié qui est en train de se créer, ces liens. Et ça, ça fait très plaisir à HM. Vraiment, ça donne du baume au cœur à Kadosh Baruch Hu. Et quand il voit ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, ben, tu sais quoi, j'ai pas créé mon monde pour rien. Voilà, donc Baruch HaShem, je suis très heureuse de ça. La semaine prochaine, il n'y aura pas cours parce que ça sera pour Rim. Donc je me suis dit, on va... Ben oui, c'est pour Rim.
Mais c'est mercredi. Mercredi, c'est... Ah, c'est pour Rim, chez vous.
Mardi, mercredi, Baruch HaShem. Lundi, le Ta'anit Esther. Donc je me suis dit, on va un petit peu parler de Pourim. Une chose qui est importante, c'est que on va parler des Mishloche Manot, déjà, pour commencer. On va avancer doucement ensemble, mais je voudrais revoir avec vous certains points. Les Mishloche Manot, l'important, c'est de faire deux, d'accord ? C'est que la mitzvah, c'est de faire deux Mishloche Manot. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire non plus 1000. En plus de ça, il faut que, dans vos Mishloche Manot, vous réfléchissiez. Le but, c'est de donner à quelqu'un, mais pas à sa meilleure amie. Ta meilleure amie n'a pas besoin de ton Mishloche Manot pour savoir que tu l'aimes. Donne plutôt un Mishloche Manot à quelqu'un avec qui tu n'es pas peut-être en bon terme, avec quelqu'un avec qui tu voudrais resserrer des liens. D'accord ? Faut pas croire que parce qu'on donne un Mishloche Manot à quelqu'un, alors on est fâché. Non, des fois, tu sais quoi ? J'apprécie une personne, mais... On n'est pas vraiment... Je voudrais resserrer des liens. Donc, on essaye de donner ces Mishloche Manot à des gens avec qui on n'est pas spécialement amis. Chaval, Bémet, Chaval, d'envoyer des Mishloche Manot à vos copines, c'est dommage, déjà. Il y a des personnes qui n'ont pas spécialement d'amis. Donc, peut-être aller voir des petites personnes qui sont isolées, des vieilles dames, des vieux monsieur, des personnes malades. Dites-vous, bah, tu sais quoi, ça, c'est peut-être mieux que de faire le truc. Et puis... Restez tsanoua dans vos Mishloche Manot, ça veut dire quoi ? Rappelez-vous que peut-être vous allez donner un Mishloche Manot, qu'une autre personne va vouloir vous rendre. Si vous donnez quelque chose de trop gros, la personne d'en face, elle va peut-être se sentir mal à l'aise. Donc, restez tsanoua. Travaillez votre ego, d'accord ? Parce que ça aussi, malheureusement, il y a de l'ego souvent dans les choses qu'on donne. On veut montrer quelque chose de spécial, on veut montrer que, voilà, on a fait quelque chose. Non, le Mishloche Manot, je te rappelle, c'est une mitzvah, d'accord ? Donc, l'essentiel, c'est qu'il y ait deux brachot. Si vous avez la possibilité de mettre deux choses qui vont servir à la Seouda, c'est très bien. Sinon, vous donnez deux petites choses, ça servira. Et voilà, si tu as parlé, j'ai entendu, de ton association. Donc, si, par exemple, tu as ce jour-là des chayalim qui viennent ce jour-là avec ses pourim pour eux, alors dans ces cas-là, donnez-lui et qu'elle puisse donner, puisque c'est... Mais il faut que ce soit le jour de pourim, d'accord ? Parce que c'est la mitzvah. Donc, voilà. Donc ça, c'est important de se rappeler l'histoire des Mishloche Manot, parce que malheureusement, c'est une histoire qui revient trop souvent et... Trop souvent l'histoire.
Il faut les donner de main à main ou on peut les faire livrer ?
Tu peux aussi faire livrer, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. À Icar, tu te dis, je veux faire à quelqu'un avec qui je veux resserrer des liens, je veux faire avec quelqu'un qui peut-être n'a pas vraiment d'amis, quelqu'un qui... Vous voyez, des fois, il y a des gens, ils sont très populaires, alors ils vont avoir 1000 Mishloche Manot. Et d'autres, ils ne sont pas très populaires. Sois intelligente. Pas la peine de rajouter encore un Mishloche Manot à la fille qui est populaire. On s'en fout. Donne à quelqu'un qui n'est pas populaire et qui n'a pas de Mishloche Manot, ça va lui faire plaisir.
Dommage, je voulais faire à Steph.
Non, ne lui fais pas. Hein ? Ne fais pas. Ne fais pas. Oui, il faut donner le jour de Pourim. Donc, ça, c'est important. Toute l'histoire de Pourim, c'est aussi une question de hardout. On va regarder ça dans un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé en gros ? C'est que Le Ham Israël, donc, il était condamné. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'histoire avec Aman et Mordechai. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout le monde s'était mis, d'accord ? Tout le monde se prosternait devant Aman, sauf Mordechai. Pourquoi ? Parce que, bien avant ça, Mordechai avait à manger, toujours des histoires de manger chez nous. Aman n'en avait pas, donne-moi à manger. Il lui avait dit, je te donne, mais dans ces cas-là, tu deviendras mon esclave. L'autre, pour manger, il a dit d'accord. Et ce qui fait que Aman ne pouvait, Mordechai, qui était représenté comme le tzaddik, ne pouvait pas se prosterner devant Aman, oui, puisque c'était son esclave lui-même. On ne va pas se prosterner devant son esclave. Et tous les gens disaient à Mordechai, mais tu vas nous faire avoir des histoires, il faut te prosterner, il faut faire, etc. Et l'histoire, elle a continué aussi que Ahasvéros, il a fait un festin. Et bien évidemment que si c'était un festin, d'accord, qui était avec le tampon taref, pas cachère, bien sûr qu'on ne va pas y aller. Donc il a été très... C'est vrai, tu ne vas pas à un festin ou tu ne vas pas à un endroit où on te dit, tu sais, il y aura du porc, donc voilà. Tu dis, ben non, j'y vais pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il était très intelligent. Ahasvéros, il a dit, je fais un festin, je veux inviter tout le monde, même les juifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que le manger va être kasher la méadrine, d'accord ? Ce qu'on va faire, c'est que vous allez avoir votre place, et comme ça, les juifs, vous allez pouvoir venir. Alors, Mordechai a dit, non, on ne peut pas y aller, parce que ce n'est pas, ces représentations ne nous appartiennent pas. Ce n'est pas des endroits pour nous, parce que peut-être le manger et les méadrines, mais les influences qu'il y aura là-bas, le comportement qu'il va y avoir, tout ce qu'il va y avoir autour, ça ne sera pas du tout cachère. Alors les Juifs, ils ont dit à Mordechai, mais tu comprends, on est obligé d'y aller, il faut que, sinon on va avoir des problèmes. Et Mordechai disait non. Et en réalité, parce qu'ils n'ont pas écouté la parole du tzaddik, d'accord, c'est pour ça que Bémet, qu'on a eu des problèmes. Pourquoi ? Parce que quand ils sont partis, alors c'est vrai que le manger, il était méadrine, mais l'ambiance, elle était comment ? Taref à la mort. D'accord ? Parce que il y avait, d'abord, qu'est-ce que tu as ? Pas cachère. C'était pas cachère du tout. Mechila. Donc, c'était quoi ? Ça veut dire qu'il y avait... Bien évidemment que les gens étaient habillés n'importe comment. Le but du festin, ok, c'était des orgies. C'était les gens mangeaient, se faisaient vomir pour remanger encore. C'était les tavot à outrance, les hommes, les femmes, les machins. Donc, c'est sûr que ce n'était pas du tout un endroit pour les juifs. Et ils n'ont pas voulu donc écouter le tzaddik. Et... Malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, nous aussi, on est encore dans ce genre de problème, dans ce genre d'histoire. C'est que très souvent, on est attrapé par des ambiances, on est attrapé par une société qui nous oblige, d'accord, à faire des choses. Et en nous disant, mais si tu ne fais pas, tu sais, tu auras des problèmes. Si tu ne fais pas, c'est compliqué, c'est machin. Il faut savoir que non, ce n'est pas comme ça. Et qu'est-ce qui a fait que, Bémet, il y a eu le décret sur le Ham Israël ? C'est qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que il y a eu une division dans le Ham, puisque Mordechai a dit on ne peut pas y aller. Et donc certaines personnes ont suivi le tzaddik, d'accord, Mordechai, et les autres n'ont pas été. Donc là, il y a eu une division dans le peuple. Et ça, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas supporter. Akadosh Baruch Hu, il veut, d'accord, qu'on reste unis. Akadosh Baruch Hu, il veut que le Ham Israël soit toujours un. Et le fait qu'il y a eu la division dans notre peuple et que certains sont partis au festin et que d'autres sont restés, il y a eu un décret. D'accord ? Maintenant, il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, en réalité, c'est lui qui dirige le monde. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, lui, en réalité, il représente le monde. Et Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il se déguise des fois à l'inverse de lui-même. Vous vous rappelez, on avait dit que Hachem, c'était comme un enfant, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, et que Il joue. En fait, c'est un jeu. D'accord ? Et tout le travail, notre travail à nous, c'est justement c'est d'arriver toujours à garder en tête la chfiyout. La chfiyout, ça veut dire un esprit clair. De garder, ça veut dire un équilibre. Me rappeler qu'il y a la Torah, il y a les mitzvot, ça, c'est ce qu'il y a de vrai. Tout le reste, c'est fait pour m'embrouiller. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il nous met dans des situations comme le festin, d'accord, avec la pression sociale, t'es obligé d'y aller, t'as pas le choix, sinon qu'est-ce qui va se passer, on va avoir des problèmes, des machins, tout ça. Là-bas aussi, c'est Akadosh Baruch Hu. Et toute notre épreuve, c'est de se rappeler, est-ce que là-bas, c'est un endroit, d'accord, pour des juifs, ou est-ce que là-bas, c'est pas un endroit pour un juif ? Tout le travail, il est là. C'est qu'à chaque instant de ma vie, je dois me rappeler, est-ce que, Béhémet, je dois aller dans un endroit par pression sociale, ou alors je dois savoir dire, ben, cet endroit-là ne me convient pas. C'est pas, c'est très dur. Je ne t'ai pas dit que ce n'est pas dur. C'est très difficile, mais comprends une chose, c'est que...
On est un peu esclaves de notre société. Hein.
T'as pas, bah, et ils n'étaient pas esclaves, eux, de leur société ?
Ah oui, mais même... C'est-à-dire que là, si je me remets dans le monde contemporain, on est esclaves de notre société. Enfin, pour les gens un peu traditionnels...
Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que sans te remettre dans ton monde, reste là où ils étaient aussi, c'était pareil. On a toujours... C'est-à-dire, de tout temps, ça existait, cette prise de décision. J'y vais pas. Je fais pas. Tu comprends ce que je veux te dire ? C'est... T'as pas le choix, c'est comme ça. À toi de savoir à chaque fois dire j'ai décidé de pas aller, tu assumes, j'ai décidé d'y aller, tu assumes. Tu comprends ? C'est tout. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi Pourim ? Pourim, c'est aussi une acceptation, d'accord, de la loi orale. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas écrites, mais quand les rabbanim, d'accord, ou le tzaddik qui te dit ça, non, bah, tu dois écouter. Pourquoi ? Parce que, justement, à Pourim, on a accepté la Torah. À Pourim, Bémet, on a, après Pourim, quoi, après le Nes qu'on a vécu, on a compris que quand le tzaddik qui te dit « tu fais une chose », lui sait pourquoi il te dit ça. Toi, tu ne peux pas savoir. On se doit aussi d'avoir ce bitoul, ça veut dire devant les tzaddikim. Et puis, quand on arrive à faire ce bitoul, ça veut dire cette annulation de moi-même, cette annulation de l'ego, ok ? Alors, automatiquement, c'est là où je vais vivre un vrai miracle. Regardez Pourim ce qui s'est passé. Parce que ce qu'il y a eu à l'époque, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. D'accord ? À l'époque, Achashverosh, il avait dit à Vashti, donc Vashti, c'était sa femme. Il avait dit, donc il avait bu, il y avait tout le monde, c'était le machin. Et il avait dit, je veux que Vashti, elle vienne toute nue. Sa femme. Mais, merci Sacha. C'est pas différent. Aujourd'hui, quand ton mari, il t'achète des robes que t'es nue dedans, ou que toi-même, espèce de folle que tu es, encore pire que ton mari, tu vas acheter toi la robe où tu es nue. Pourquoi ? Parce qu'un créateur, il a décidé que c'était très beau, c'était très à la mode. D'accord ? Bah, c'est pareil. Ok ? Alors, quand il lui a dit, Vashti, viens te présenter nue devant tous mes copains pour qu'on voit comment t'es belle, elle a pas voulu. Pourquoi elle a pas voulu ?
Ah, excuse-moi.
Eh oui.
C'est pas par pudeur.
Voilà, j'attendais celle-là. Non, toi, tu crois vraiment que c'était de la pudeur ?
Oui, je pensais que c'était par pudeur.
Mais pas, écoute, tu sais, mais pas du tout. Tu sais qui c'était Vashti ? Vashti, elle vient d'une famille de dépravés. Mais t'as même pas idée de d'où elle vient Vashti. Ça veut dire c'était des nudistes. C'était rien à l'époque pour eux, ça. C'était des dépravés. Vashti, sa famille, elle a reçu une éducation. C'était tout était ouvert. Tu comprends ? Donc, quand elle a dit, il lui a dit, viens devant mes copains pour te montrer comment t'es belle, d'accord ? Viens montrer ton décolleté, viens montrer tes jambes, viens montrer... Elle a dit non, pourquoi ? Il y a plusieurs options. On dit, la Torah, elle dit, parce qu'il y a des cornes qui lui ont poussé. Il y a l'histoire qu'elle avait eu la lèpre, donc on ne pouvait pas se montrer devant tout le monde comme ça. Et parce qu'elle a une queue qui a poussé. Ça, c'est... Voilà. C'est pour ça que Vashti n'a pas été. Parce que c'est comme nous. Est-ce que si maintenant... Oui. Est-ce que non... Viens maintenant, je vais te poser une question, d'accord ? Si tu es une femme et que tu as l'habitude de t'habiller avec des décolletés, des mini-jupes et tout ce que tu veux, mais que malheureusement, aujourd'hui, tu te lèves et que ton décolleté, d'accord, ben, je sais pas, tu as des boutons, c'est moche. Tu vas aller montrer ça? Ben non, parce que tu as honte, parce que ça va pas te flatter, parce que ça va pas flatter ton ego, qu'on va dire, ah, elle a un beau décolleté ou j'en sais rien quoi. Tu vas cacher ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, c'est pas par pudeur que tu vas pas le faire. Tu vas le faire parce que, en réalité, d'accord, quand toi, tu veux exister, tu veux faire gonfler ton ego et tu veux montrer ce que tu as de plus beau en toi. Que ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Hein. Ne vous méprenez pas. Donc, Vashti, quand elle a dit, quand le roi lui a dit « Viens et montre-toi », elle, elle a refusé, d'accord, parce que ce jour-là, ben, manque de chance, elle était affreuse. Sinon, elle y aurait été, elle aurait été très fière de se montrer. Elle ne cherche que ça. C'est une femme. Quand tu vas dans un mariage, comment tu fais? Tu vas pas chercher la robe où tu vas être le plus sexy possible. Ouais. Tu vas pas être la plus belle possible. Et la plus belle, ça représente quoi? Bah, combien que je vais montrer ma poitrine? Combien que je vais pouvoir montrer que j'ai des belles jambes? Et puis, si je veux faire un peu mon mytho, je vais mettre une robe longue, mais je vais pas mettre un jupon. Comme ça, c'est bien transparent. Tu vois? Tu vas jouer avec ça. Ça veut dire, chacune, elle connaît son mensonge. Et puis, tu vas dire, bon, bah, tu sais quoi, je vais mettre un truc opaque, mais tu vas mettre une fente jusqu'à la cuisse, qu'on va voir que tu as une culotte, je ne sais pas comment. Et puis, tu vois, ça veut dire, tu as mille choses. Hein?
C'est un peu ça, oui.
Mais c'est la vérité, ce que je te dis, ce n'est pas un mensonge. C'est ça, une femme. Mais oui, ça nous parle. Mais écoute, Baruch HaShem, tu sais quoi? C'est magnifique que tu dis que ça te parle. Tu es sur le bon chemin pour la tzniout. Parce que tu as des personnes qui vont te dire « Mais non, mais pas du tout. » C'est pas vrai, ça c'est le Emmet. Quand tu vas dans une soirée, d'accord, tu te prépares, et le coiffeur, et le maquillage, et la robe, et une semaine avant, tu vas dire « Qu'est-ce que je vais mettre ?» Tu t'imagines? Un mois avant. Ça veut dire, on ne sait pas quel temps il va faire. Imagine, il se fait mauvais ce jour-là, et que toi, tu as mis la robe, c'est compliqué, tu vois, enfin... Tout ça, en réalité, ça occupe ton esprit. Hein?
Non, c'est pas grave, attends. La robe, elle est bien.
Ah ouais. C'est vrai que moi, je me suis toujours dit, je te promets, mais comment, en plein hiver, on peut venir habiller... Et je me suis dit, ben, tu vois, Yael, comme quoi, en réalité, quand moi, on me dit, mais c'est pas chaud, les collants en été ou les manches longues. En réalité, c'est du bidon, parce que moi, en été, j'ai les collants et j'ai les manches longues, c'est peut-être chaud, mais en hiver, celles qui mettent les décolletés, ben, je me dis, mais comment elles font? C'est bizarre, tu vois, ça veut dire, en réalité, comme quoi, tu vois, le ridicule ne tue pas, et comme quoi, Bémet, que la mode et tout ce système, c'est un gros mensonge. C'est un très gros mensonge. On t'oblige, en réalité, d'accord, à être esclave d'un système, à être l'esclave de certaines idées. Après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout d'arriver habillé comme on veut? Qu'est-ce que ça peut faire? Bémet, qu'est-ce que ça peut faire? De qui t'as peur? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Comment on va te regarder? Comment on va te percevoir? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bémet, tu vois? Si tu veux être une femme libre, prochaine soirée, tu te dis, j'en ai rien à faire. J'y vais comme je veux. Bah, c'est sûr, sois libre. Les gens... Ils vont te juger par rapport à ta robe et ton décolleté ou par rapport à ce que tu es, Bémet?
Moi, je peux tellement plus te respecter.
Paralyque. La plus belle des belles. Tu vois? Ça fait... Alors, peut-être que tu ne vas pas pouvoir dire « Allez, je m'en fous, fais un truc. »
Moi, je mets la perruque.
Une petite chose.
À chaque soirée.
Mais une petite chose. Une petite chose.
Moi je mets la perruque, les gens ils comprennent pas. Ils me disent, mais attends, tu mets la perruque le soir et pas la journée? Je dis, bah écoute, c'est déjà ça. Rabbi Noui m'a dit, je fais ce que je peux.
Exactement. Ce
comme
qu'on
ça,
peut.
Moi ma tenue, il n'y a pas la fente et il n'y a pas la transparence.
Donc on voit que quoi? Que Bémet, le début de l'assimilation, d'accord, il a commencé justement comme ça à Pourim où on s'est dit, on n'a pas le choix que d'aller au festin du roi. Si on avait été, d'accord, très fort dans nos idées, on avait dit non, ça ne correspond pas à nos idées, c'est pas la Torah, c'est pas, donc j'y vais pas. Tu avais le libre arbitre, ou tu penses avec Hachem, ou tu penses sans Hachem, d'accord, c'était ça. Mais regardez comme Hachem, il est bon, Ça veut dire, malgré qu'on y a été, il y a toujours un petit groupe, d'accord, de personnes qui s'opposent et qui vont pas, qui vont à contre-courant. Pendant 6 jours, le groupe de Mordechai, ils ont jeûné. Esther aussi, elle a jeûné, d'accord. Et Baruch HaShem, tout s'est inversé. C'est quoi Bemet Purim? Purim Kippour, d'accord, ça va ensemble. Pourquoi? Purim, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? On jeûne. Nous, on va manger. À Purim, on va aussi se déguiser. Pourquoi est-ce qu'on se déguise à Purim?
Pour tromper l'adversaire.
Pour tromper l'adversaire, ok. Pourquoi aussi?
Parce que la reine Esther, elle s'est déguisée, non?
Parce qu'Hachem, il s'est caché, donc quelque part on se cache derrière ce déguisement parce que tout était voilé.
Et que, et aussi pour se rappeler que Bémet, Hachem, il se déguise tout le temps. Comment Hachem, il se déguise? Dans la nature et en chacun de nous. À chacun de nous. Et c'est pour ça qu'à aucun moment, tu peux les alzèles, ça veut dire tu peux mépriser une personne. Parce que dans chaque personne, d'accord, tu vas retrouver une partie d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En ne regardant pas ce que la personne, elle représente, en ne regardant pas, comme on a dit tout à l'heure, si la personne, d'accord, elle est populaire ou pas populaire, Hachem, il te met face à une personne, Hachem, tu parles avec une personne, aussi insignifiante soit-elle, attrape le message. Dans chaque personne, d'accord, tu as un message à attraper. Et toute l'histoire de Purim, c'est justement, c'est qu'il y a eu un inversement de situation. Pourquoi Bémet, nous aussi, pendant tout ce mois de Hadar, on peut vivre toute cette situation, on revit cette histoire, chacun voit son aise de Purim, chacun, pendant tout le mois de Hadar, il voit des choses spéciales se passer. Alors, parce que en réalité, plus tu vas t'en remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, plus tu vas faire une annulation de ta personne en t'incluant dans Akadosh Baruch Hu, et plus tu vas voir comment Mamash Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler d'une manière très forte à toi. Ça veut dire il va Mamash se dévoiler complètement. Tout le mois de Hadar, dès que, même avant qu'on rentre dans Hadar, on te dit quoi? Il faut être Bessimcha. Remarquez bien, dès que Hadar vient, il y a des nouveaux problèmes, ou alors vos problèmes, ils deviennent différents, enfin, ils prennent une nouvelle ampleur. Et automatiquement, tu vas avoir du mal à être dans la simcha. Pourquoi?
Parce que c'est caché aussi.
Parce que si Bémet, d'abord, tu étais consciente de ce que ce mois de Hadar pouvait t'apporter, tu dirais, je m'en fiche de tout. Je mets de la musique, je danse, je m'en fiche de tout, je fais tout pour être Bessimcha. Si tu étais capable de voir ce que ce mois de Hadar, il peut t'apporter. On vous dit que le mois de Hadar, c'est le mois de chance de chez les Juifs. On dit même que quand il y a Chas V'Shalom, un procès, un problème, n'importe quoi, mets-le en Hadar, parce que Hadar, il va tout inverser. Et remarque bien, dès que Hadar il arrive, souvent, les gens rentrent dans l'angoisse, le stress, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Mister Amalek, notre ami Amalek, d'accord, il le sait, lui, tout ce qui t'attend à Hadar. Il sait tout ce que tu vas recevoir comme cadeau. Il sait en réalité la force de ce mois pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est dit, viens, ta vie, que tu as l'habitude de ta vie, hein, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Tes histoires, c'est toujours les mêmes. Et bien, il va te les rendre pires, compliquées. Et toi, tu vas dire, oh là là, comment je vais faire? Et tu vas prendre tout le poids. Tout le mois de Hadar, Bémet, d'accord, ça va être un travail encore plus que toute l'année pour être Bessimcha. Ouais. Pourquoi? Parce que Dafka, si tu réfléchis bien le mois de Hadar, je vous promets, vous pouvez voir des miracles, mais comme c'est même pas permis. Juste, il faut s'en remettre à Hachem. Prends à moi et dis-toi, tu sais quoi, je me mets en off. Je m'en fous de tout. Il y a des problèmes, d'accord, bon, on verra après. Il y a des histoires, on va voir après. Dis, je vais voir après. Je laisse faire à Kadosh Baruch Hu. Remets-toi-en. Pourquoi tu dois te remettre à Hachem? Parce que, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, il se déguise. Il se déguise dans tes problèmes. Il se déguise dans ton mal-être. Il se déguise dans tes histoires. Il se déguise dans tout ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. Tu crois que ça existe. C'est comme tu dirais un... C'est un film de science-fiction où Bémet, c'est tellement bien fait que tu crois que c'est ça. Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas. C'est juste qu'on te prend, on te met dans une situation, d'accord ? Et on te dit, il faut maintenant que tu arrives à dévoiler le nom d'Hachem. Et toi, tu n'arrives pas à le faire. Pourquoi ? Parce que tu crois que cette situation, elle est réelle. Mais Hachem, il peut te tirer de ça en 2 secondes. Tu as juste besoin de chercher Hachem à ce moment-là, de dire, Ribono Shalolam, je sais que c'est toi derrière cet empêchement. Je sais que c'est toi derrière cette histoire, ce problème, cette bagarre. Je sais que c'est toi. Je ne vais pas me faire avoir. Même un problème de santé, Lo Aleinu. C'est toi, Akadosh Baruch Hu, qui est derrière tout ça. Et je sais que tu veux qu'une seule chose, c'est que j'arrive à faire grandir ton nom malgré cette histoire. Et je peux vous dire que si pendant Chodesh Adar, d'accord, on arrive à garder en tête cette histoire de Simcha, l'union dans le Ham Israël. Parce que rappelez-vous, on a dit que s'il y a eu le décret, c'est parce qu'il y a eu une division. C'est parce qu'il y a eu de la marloquette, il y a eu des disputes. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas intéressé à ça. Hachem, je vous le rappelle, il a créé le monde pour une seule chose, le shalom. Le shalom dans son peuple. Et le shalom dans chaque maison juive. Et chacun de nous, on doit faire tous nos efforts possibles pour garder ce shalom. C'est vrai, tu vis avec des gens différents, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même façon de penser. C'est tout ce que tu vis, chacune, elle va prendre sa vie et elle va prendre ses exemples. Tout ce que tu vis, d'accord, c'est vrai. Et alors ? C'est une raison pour se bagarrer ?
J'adore le « et alors ».
Ben oui, et alors ?
C'est ma passion.
Regarde Hachem. Mais imagine-toi la crise de nerfs qu'il pourrait prendre tous les matins. Quand il voit son monde. Non mais franchement, il s'est tué, il s'est cassé la tête à créer un monde. Et vas-y, il nous a fait des miracles sans bornes. Et vas-y, je te donne la Torah. Et qu'est-ce qu'on fait nous ? On s'en fout, ça nous saoule. Non, franchement, t'imagines la crise de nerfs d'Hachem tous les jours ? Eh ben Hachem, il se dit, ben non. C'est quoi ? C'est pas grave.
Et alors ?
Oui, et alors ? C'est pas grave. On est différents. Moi, Hachem, d'accord ? J'ai tout compris, je sais tout, j'ai tout créé. Vous êtes tous des pions. Mais vous, les êtres humains, donc nous, d'accord ? Nous, les êtres humains, qu'est-ce qu'on croit ? Non. J'existe. Je. Il y a mon ego qui prend de la place. Et je veux exister, je veux briller, je veux avoir raison. Et qu'est-ce que je vais pas faire pour avoir raison ? Je suis capable de me bagarrer. Hachem Bémet qui pourrait prendre des crises. Eh ben non. Akadosh Baruch Hu, il nous accepte comme on est. Hachem, il nous aime comme on est. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ça ? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas se dire, ben tu sais quoi, Hachem ? Tu m'as mis dans une maison ou dans un travail ou avec des gens qui sont opposés à moi-même. Eh bien, c'est pas grave.
Dans des situations opposées à nous-mêmes.
Dans des situations opposées à toi-même. Tu sais quoi, on va aller même plus que ça. Dans des situations opposées à la volonté d'Hachem.
C'est ça.
Voilà.
C'est
ça. Eh bien.
Exactement.
Hein ?
Moi, je n'ai pas aussi.
Voilà. Eh bien, et alors ? C'est une volonté d'Hachem. Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Et alors ?
Qu'est-ce que ça peut te faire ? Si Hachem, il veut que tu le serves, dans cette maison, avec ces gens, dans des situations, qu'est-ce que ça peut te faire, puisqu'on a dit qu'Hachem, il se déguise. Puisque... Hein ?
Le shalom avant tout.
L'unité avant tout.
Et aussi avoir conscience qu'il faut qu'on serve Hachem.
Bien sûr ! C'est quoi servir Hachem ?
Avoir conscience.
Servir Hachem, les copines ? Ça, c'est important, puisque tu parles de ça. Attends, justement. On va parler de ça, parce que ce matin, je parlais avec une patiente à moi, en venant ici, qui me disait, d'ailleurs je te dédie ce cours, on a, je ne dirai pas ton nom, mais je te dédie ce cours parce qu'on en a parlé. Je lui fais un clin d'œil. Parce qu'elle me disait, j'en peux plus. Elle me disait, j'en peux plus, tout est devenu très lourd, très truc, je dois réfléchir à chaque chose. Elle me dit, mais j'arrive plus à être légère comme avant. Je lui dis, oui, tu sais pourquoi? Parce que depuis que tu as compris qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il y a des Torahs, il y a la mitzvot, il y a les machins, je lui dis, tu crois que c'est toi qui gères tout. Je lui dis, mais tu n'as rien compris. C'est Hachem qui gère. Tes pensées ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent à Hachem.
Mais toi, tu appartiens aux pensées.
Tu vois ?
Ça t'appartient de penser. Parce que quand on doit travailler dans ne pense pas et ne réfléchis pas, comme il dit Rabbi Nathan, c'est qu'on doit. Nous, on a quand même le truc. Non, il ne faut pas que je pense.
À partir du moment où tu te prends conscience de la pensée.
Voilà, c'est ça.
Tes pensées, elles appartiennent
à Hachem. Hachem.
On va rester 2 heures.
Préparez-vous. Tu peux contrôler ses pensées. Mais
à partir du moment où tu prends conscience de la pensée.
Tu veux dire que les pensées qui passent comme ça à travers notre esprit ne sont pas à nous.
Elles t'appartiennent pas, c'est Hachem qui les a mis dans la tête.
Et c'est à toi que quand tu sens que c'est pas une bonne pensée, tu dois rencontrer ton truc. Alors si justement, on dit non, ça veut dire Hachem, arrête de me mettre des bêtises dans la tête.
Bah oui.
Ah c'est ça, c'est ça.
Oui, bah, c'est comme quand Hachem maintenant il te met dans une situation qui est opposée à Hachem. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets pas Hachem dedans? Bah oui, et donc tu es capable là de dire « Ah papa, attends, je pense avec Hachem, donc là je fais pas. Ah, » ouais. Tu comprends? Ta base, c'est la halakha. La base, c'est la loi. D'accord? Par exemple, tu es, je sais pas, en train de faire un mandgal Shabbat.
Un
barbecue. Tu fais un barbecue Shabbat. C'est sympa, tu kiffes, on est au bord de la plage, vraiment le kiff total. D'accord? À un moment donné, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Tu as une petite pensée comme ça.
C'est Shabbat.
C'est Shabbat. C'est péché. Qu'est-ce que je suis en train de faire? D'accord? Et ben là, tu as la possibilité de dire, mais non, je n'ai pas le droit d'assister à cet événement. C'est assourd. Et tu peux même dire aux gens autour de toi, vous savez que c'est Shabbat. Tu t'en fiches que tu as écouté ou tu n'as pas écouté. Toi, en tout cas, tu l'as dit. Tu te retires du barbecue. Alors, tu vas dire, ouais, mais bon, c'est trop facile. T'as kiffé, t'as mangé, t'as fait. OK, et alors? Ce qu'il y a eu, Machaya, c'est mort maintenant. J'ai pris une nouvelle conscience. Tu comprends? Ça veut dire, tout est une question de conscience. Akadosh Baruch Hu, il va te mettre dans des situations qui, toi, tu crois que c'est opposé à Hachem. Mais en réalité, c'est pour que tu fasses un travail là-bas aussi. Si Hachem, il avait voulu qu'on soit que dans la Torah, les mitzvot, et que tout ce que tu veux. Mais il nous aurait placés dans un monde où il n'y avait pas tous ces interdits. Il nous aurait placés dans un monde où il n'y avait pas toutes ces tentations et toutes ces choses-là. C'est Hachem qui nous a placés là-dedans. Oui.
C'est Hachem aussi.
C'est Hachem. Et toi, tu dois être capable de dire, Hachem, c'est une mauvaise pensée que j'ai eue. Je veux plus. C'est très dur. Bon, on monte le niveau chaque semaine. On monte de niveau chaque semaine. Regarde. Imagine maintenant quelqu'un. Imagine maintenant, tu es en boîte de nuit. Bon, je sais pas. Prenez des exemples qui vous parlent. Qu'est-ce qui peut vous parler?
Moi, je peux donner un exemple.
Vas-y.
Par exemple, à un moment donné, dans le mariage de ma fille, des fois, on a plein de choses. Et la belle famille ne la supportait pas à un moment donné. Maintenant, je les adore aujourd'hui, Béhémeth.
Ah bon, tu supportais pas la belle famille?
À un moment donné, c'était très difficile. Oui, et quand j'allais en rendez-vous avec eux, alors là, ma tête, elle fusait de pensées. Mmh. Alors, je vais lui dire ça, je vais faire ça, Et là, j'ai dit, hop, stop. Je prends mon livre « Les mots qui guérissent », je lis le truc de Rabbi Nathan, il est strictement, formellement interdit de rentrer dans ses pensées, ses réflexions, tac, je ne pense plus. Et donc là, je ne pense plus. C'est un vrai travail, il ne faut plus penser. Voilà. Et c'est là que tu maîtrises ta pensée.
Mais c'est un... Il faut venir, il faut qu'on fasse au moins 3 fois par semaine avec elle.
Attends, attends, et quand tu fais ça, attends, et quand tu fais ça, tu vois pas que
ça, en face... Je suis même plus énervée.
Et les gens en face, ils changent.
Tout change.
Les gens, ils changent.
Moi, j'arrive avec mes armes, c'est ma pensée. Et finalement, c'est pas une arme la pensée, c'est ce qui va détruire. Donc quand tu domptes ta pensée, voilà, et après t'arrives, t'es légère.
Quand en réalité, c'est exactement ça, ça veut dire, si, il faut que tu comprennes une chose, ta pensée, tes mauvaises pensées, elles sont inscrites en toi. Donc quand tu viens voir l'autre, l'autre en réalité, c'est comme si il déchiffrait tes pensées. Si tu viens avec une pensée de guerre et de haine, eh ben, l'autre, il est obligé de se mettre aussi en position de guerre et de haine. C'est normal. Mais si tu viens, d'accord, avec des pensées d'amour, de bonté et de fraternité, etc., en face, ben, il va se calmer parce qu'il ressent ça aussi. C'est normal. C'est bien évidemment, regarde, dans un couple, c'est pareil. Tu peux t'énerver, tu peux truc, mais toi, maintenant, là, en face de toi, la personne, elle est calme. Bon, ben, tu vas un petit peu te calmer automatiquement. Sinon, si on est deux chiens en train de s'attraper les crises, et l'autre, il crie, et l'autre, il fait... Ben, on est entre animaux, et voilà, et on a perdu face humaine, d'accord ? Donc, c'est important, Agnès, tu as une pensée, à partir du moment où tu prends conscience de la pensée, et que tu penses, et tu comprends que la pensée, elle est tordue, tu dis, là, j'arrête, c'est pas bon.
Non, la prise de bouche, pour moi, c'était de comprendre, enfin, de... Non, à chaque fois, depuis que je te connais, tu me parles des pensées, donc, à chaque fois, quand j'ai des... mauvaise pensée, je parle à Chel, je dis enlève-moi ça, ou j'en veux pas, ou va-t'en, ou je sais pas, tu vois, je mène à travailler.
Très bien.
Je ne savais pas que mes pensées ne m'appartiennent pas, que ça vient aussi.
Mais ça vient d'Hachem, tout vient d'Hachem.
Tu vois, j'avais entendu que quand il y a des pensées angoissantes et tout, c'est le dîn, c'est à cause du dîn, à cause de nos fautes que.
C'est Hachem qui veut te réveiller. Tout c'est. Écoute une chose. Regarde, je vais t'expliquer une chose. Regarde, je vais vous expliquer une chose. D'accord ?
Oui, non, bien sûr.
Des fois, regarde, combien de fois, d'accord ? Tu te prends la tête dans ta journée.
Pour rien.
Parce que tu as fait une chose, tu as pensé, tu as je sais pas quoi, et que tu vas commencer à avoir des angoisses et que tu vas rentrer dans la zvout, dans la tristesse. Combien de fois ? C'est un test. C'est un test, tout ça. Tu crois que quand on te dit... Quand tu écoutes une chose, le but, c'est de rester légère. La Avodat Hashem...
Si on pense que même si les mauvaises pensées... C'est pas de nous, donc on est encore plus léger.
Mais tu sais quoi ? Je te mets au défi, Corinne, je te mets au défi d'y arriver. Le Yetzer Hara, il est tellement fort et il te met tellement. Il fait tellement exister le jeu. Tu comprends ? Les filles, toute cette histoire, c'est quoi ? C'est le jeu. L'ego. Regardez autour de nous. On veut être populaire. On veut avoir son nom écrit sur une affiche. On veut avoir, comme on avait dit, des likes. Et c'est tout le monde pareil. Que ce soit l'actrice, la mannequin, la fille qui est populaire, ou le rave ou la rabbinite, tout le monde dans le même sac. Tout ça, c'est un gros mensonge. Le jeu, il doit être annulé. Il n'y a que HM. Qui on est nous ? Même quand tu fais quelque chose que tu crois que c'est super. Mais qu'est-ce que tu as fait ? T'as été le pion d'HM qui a dit tu vas faire un truc super. Ouais. Donc c'est pas la peine de commencer à faire style jeu et jeu et jeu. T'as rien fait du tout.
Par exemple là, le coronavirus, d'accord ? Tout le monde me dit oui, il faut faire des stocks.
Des stocks de quoi ?
Tu mets quel stock ? Il dit oui, il faut avoir des stocks. Le Ravintel, il a dit il faut avoir des stocks. Je dis mais attends, moi, HM, il va m'emmener la manne devant ma porte. Comment tu fais pour expliquer ça aux gens ?
N'écoute pas les gens, t'écoutes pas comme ça.
Mais des fois, ça met la rasera. Quand il y a... Moi, je suis persuadée de mon truc. Allez.
Donc, tu vas vivre une pression sociale. Il faut acheter, il faut faire, il faut ceci.
Mais dans ta
la confiance dans la chaîne.
Ouais, mais là, le truc, c'est que j'ai tout ce qu'on vient de dire, y compris l'exemple de Steph. On est
capable d'avoir la clarté de dire ça c'est une bonne pensée, ça c'est une mauvaise pensée. Mais pour moi c'est ça le plus dur. Comment on sait que c'est une mauvaise pensée? C'est pas toujours très tranché.
Ah, attention, tout dépend ton niveau de da'at. Tout dépend ton niveau de conscience réfléchie. Ça, c'est chacun. D'accord? Ça veut dire, si, quand on a parlé tout à l'heure du barbecue, c'est évident que c'est pour une fille qui ne fait pas Shabbat. Si maintenant tu fais Shabbat, il est en toi, et qu'Hachem, il t'a mis, toi, que tu fais Shabbat, tu ne vas pas aller au barbecue. Chacune, c'est selon son niveau de conscience réfléchie.
Non, mais là, c'est facile de dire, on ne fait pas de barbecue Shabbat.
Donne-moi une idée.
Attends, regarde, ça qui est là. La question, c'est comment savoir si c'est une bonne pensée ou pas? Ben, si cette pensée elle te fait du bien, ben, c'est une bonne pensée. Mais si tu vois, si elle t'amène dans...
Encore une fois, tout dépend ton niveau de conscience réfléchie.
Oui, mais on a tous une conscience que ça, c'est bien ou pas. Enfin, c'est notre âme.
Oui, mais par exemple, si...
ça dépend de ce que tu as, ce que tu as comme conscience. Il y a des gens, ils ont une conscience réfléchie très, très, très faible.
C'est une bonne pensée.
Moi, j'ai une pensée. En fait, j'ai une pensée qui me dit non, il
ne
va pas.
D'accord. Tu fais Hidbo des doutes. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu. Et tu dis Hachem, de toutes les façons, si je vais sous la roupa, c'est ta volonté. Fais confiance en Hachem, c'est lui qui guide tes pas.
Oui, mais c'est lui qui m'a mis la
pensée. Ok. Alors encore une fois, tu pries et tu t'annules.
Et il a mis le doute.
Le doute, c'est Amalek. Tu comprends? C'est ça le doute. Le doute, c'est Amalek. C'est te refroidir dans ton Avodat Hashem.
Mais c'est pas péché de penser?
Non, pas du tout.
Faut penser?
Non, tu peux pas. Attends, je voudrais vous dire une chose avant qu'on termine, c'est important. Attends, je voudrais donner une ségoula pour que je suis sûre que vous avez toutes des jeunes filles autour de vous.
Non, on va rester là.
Moi, j'aimerais bien. Je voudrais une ségoula pour tous ceux qui ont des jeunes filles ou des divorcées ou des veuves autour et qui veulent se remarier. Dans la nuit, après, entre la première lecture de la Megillah et la deuxième lecture de la Megillah, ça veut dire pour vous, entre lundi soir, alors pour ceux qui sont en dehors de Jérusalem, entre lundi soir et mardi soir, et mardi matin, pardon, c'est très important de, pour les jeunes filles, les célibataires, de lire tout le Sefer Tehillim pour trouver son Zivoug. Badouk ou Menoussé entier. Ça a été vraiment... c'est quelque chose qui a été prouvé. Tu lis tout le Sefer Tehillim en français, dans la langue que tu veux. Tu lis le Sefer Tehillim, vraiment. Moi, j'ai vu des filles qui l'ont fait. Bémet, Baruch HaShem, elles se sont mariées. Et une autre chose aussi que je voudrais vous parler, peut-être vous ne connaissez pas, et pour celles qui connaissent, c'est important de le savoir. Le Tikkun Chatzot, de la nuit de Pourim. C'est quoi Tikkun Chatzot pour celles qui ne savent pas? On a Shacharit, Mincha et Arvit. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais malheureusement, Madame Assimilation, d'accord, nous a fait oublier une des prières les plus importantes du peuple juif, qui s'appelle Chatzot. C'est quoi Chatzot? C'est le milieu de la nuit. C'est une période, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, il tourne, il descend, il est là, il vient voir qui est réveillé, qui est là avec lui. C'est un moment où en réalité la Shrina c'est...
La
présence divine, on va dire, d'accord. Elle pleure sur la destruction du Beth Amikdash, du temple. Et on dit que le moment de Chatzot, qui dure 2 heures, d'accord, pendant ces 2 heures-là, il n'y a pas du tout de din, il n'y a pas de rigueur dans le monde. C'est que de la miséricorde. Et le Chatzot de Pourim est plus haut que tous les Chatzot. C'est-à-dire qu'à ce Chatzot-là, il faut mamash demander à Kadosh Baruch Hu.
Mais je vais vous le mettre dans le livre. Non, c'est minuit quelque chose, mais
ça change tous les jours. C'est... Non, regarde.
Il faut demander comment?
Alors, tu peux demander, d'accord? En ce moment, je crois que c'est 23h47, 48, quelque chose comme ça. D'accord? Un peu avant minuit.
Ceux qui ont l'application Kalji...
C'est marqué Tikkun Chatzot. Bon, bien sûr que l'idéal, voilà, c'est de faire
Chatzot
autant qu'on peut.
Laila, Zézé.
Ouais. 23h52. Donc de 23h52 plus 2 heures, c'est 2 heures où il n'y a que de la miséricorde. Alors, je ne vous ai pas dit de rester réveillé 2 heures, mais Ratzot, vraiment, j'en parle parce que c'est tellement beau, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une douceur dans le monde, c'est un baiser d'Hachem, c'est plein d'amour. Et même si vous êtes dans le lit et que vous n'arrivez pas à vous lever, alors juste, vous êtes par exemple réveillé, ben juste si vous pouvez parler avec Hachem à ce moment-là, parler, demander ce que vous voulez à Kadosh Baruch Hu. Vraiment, le Ratzot de Pourim, il est très 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 puissant. D'accord ? Demandez à Hachem de vous aider à faire Avodat Hachem. Demandez-lui de pouvoir trouver la sérénité. Demandez-lui le Shalom Bayit. Demandez-lui ce que vous voulez. Vraiment, le Ratzot de Pourim, il est très très important.
Mais on demande seulement ou on fait Tikkun
Léa ? Attends, attends. Que Tikkun Léa, que Tikkun Léa alors, vous faites. Ouais. Et dans le Tikkun Léa, vous enlevez les choses où il y a le Tachanoun. Ça veut dire montre en main, chrono, 5 minutes.
Ah, il y a 5 minutes.
Mais c'est pas plus. Qu'est-ce que c'est Tikkun Ratzot sans tout ça? C'est dans les sources du salut, tu l'as.
Oui, mais dans les sources du salut, il y a plein.
Parce que Tikkun Léa, c'est des psaumes, d'accord? C'est dans le groupe, on pourra, celles qui sont dans les groupes, les perles, on pourra vous enlever, oui, vous envoyer.
Ouais, donc, je vais les mettre, ouais.
D'accord,
ouais,
là, on...
ouais, parce que toutes les filles ne sont pas dans les perles, parce que Elodie les a pas toutes mises, donc j'ai mis un groupe.
Ouais, ce serait bien de regrouper peut-être.
Ça, c'est bien, plus... ouais. Donne toi, Elodie.
Donne tout, comme ça, il y a un groupe de perles et c'est facile, comme ça, elles sont. Donc, on vous enverra si vous voulez bien celles qui veulent. Mais je veux vous dire quelque chose. Ce que je voudrais vous dire par rapport à Ratzot, c'est qu'Hachem, d'accord, il attend le Ratzot de chacun. À Kadosh Baruch Hu, il est tellement heureux de voir qu'en plein milieu de la nuit où tout le monde dort, il y a un juif qui se rappelle d'Hachem. Il y a un juif qui se rappelle qu'il y avait un temple qui a été détruit. Il y a un juif qui se rappelle que Hachem il aime et qui veut tout lui donner, il y a juste à demander. C'est tellement important, on ne peut pas imaginer. Donc, même Rabbeinu il disait, même celui qui, par exemple, il a mis le réveil pour Ratzot, mais qui ne s'est pas levé à Ratzot, même ça, ça lui sera compté comme si qu'il avait fait Ratzot. Ça veut dire, ne vous laissez pas casser, d'accord, par soi-disant l'échec. Il n'y a pas d'échec. Regardez, là, par exemple, on est là tout ensemble. Et moi, je parle et j'ai envie de faire Ratzot pour Rim. Ça m'a donné l'envie de faire Ratzot. S'il y en a parmi vous qui ont envie, eh ben, ne croyez pas que cette envie, elle est stam. Même cette envie qu'on a maintenant, cette petite envie de faire Ratzot, qu'on le fasse ou pas, cette envie, elle est là et elle est comptabilisée. C'est ça l'avodat Hachem et c'est ça l'amour d'Hachem pour ses enfants. Même quand tu as une envie de bien faire, mais que tu n'as pas réussi à faire, c'est comptabilisé. Ça t'appartient.
Ça, c'est la bonne pensée.
Mais oui, ça, c'est donner un coup de poing à Amalek. C'est lui donner un gros coup de poing. Et Amalek, qu'est-ce qu'il veut ? Amalek, il veut te mettre les doutes. Amalek, il veut te dire, mais en fin de compte, tout ce que tu fais, c'est bidon. Amalek, il veut te faire croire que même les mitzvot que tu fais, ben en fait, ça vaut rien parce que c'était, il y avait une mauvaise pensée derrière, parce que tu attendais quelque chose. Mets-lui un coup de poing, dis-lui, tu sais quoi, c'est pas grave. Oui, j'attendais quelque chose. Oui, c'était pas sincère. Oui, j'ai fait que... On s'en fiche, en tout cas, je l'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Quand il nous a donné la Torah et les mitzvot, mais il savait qu'on n'allait pas faire comme il fallait. Il savait très bien Hachem. Lui, qu'est-ce qu'il retient à Kadosh Baruch Hu ? Le 0,00000, le 1. C'est ça ce qu'il retient à Hachem. Donc ne te fais pas attraper par tous les Amalek qui sont autour de toi. Le Amalek, c'est quelqu'un qui veut te détruire, qui veut te refroidir dans ton avodat Hashem. Le Amalek, c'est quelqu'un qui veut t'enlever la simcha. Le Amalek, c'est quelqu'un qui veut te faire douter de ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Tu veux faire une chose, fais-le. Aïkar et une bonne pensée pour Hashem. Et la volonté de faire plaisir à Hashem. Apprends à aimer Akadosh Baruch Hu en étant sûr que Hachem, en réalité, c'est pas un traître, Hasvei Shalom. C'est pas Hachem, c'est pas quelqu'un qui cherche la petite bête, qu'est-ce qui va pas. Au contraire, je te dis, Hachem, c'est 0001. Ne te fais pas attraper par tout ça. Donc, même si on a eu un début de Hadar, qu'est-ce que tu veux dire ?
Ce que je veux dire, c'est que quand on commence ce travail, et il faut savoir qu'il y a encore plus de raisons. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de nerveux.
Ah ouais.
Et j'ai l'impression d'avoir des crises de nerfs que je dois maîtriser, qui sont
jamais arrivées, alors que justement, je fais un travail là-dessus. Donc je me dis, c'est pas possible. On dirait que c'est fait exprès. C'est pour te mettre
à partir.
Toujours que c'est fait
exprès. Regarde, c'est fait exprès. Oui, oui. Regarde.
Mais t'es rapide, t'inquiète.
Bienvenue au club. Regarde, je vais vous dire
dès
quelque
que tu
chose.
Commences la chaîne,
dès que tu commences.
Sors ton. Ta nishama.
Tu peux me donner le. On en a. Non, le. Écoutez-moi, Aran. Je veux vous lire un truc. Alors, c'est même pas la peine. Hein. J'ai rien compris, mais
on
peut-être.
On a donné que... tout pour l'écouter. Heureusement que tu m'en.
Donne-moi un, vite, vite. Je veux vous lire une Torah. Sache, il faut que tu écoutes cette Torah. Elle est dingue. Ouais. Je l'ai pas comprise encore. J'ai rien compris, mais elle est tellement belle. Elle est courte que c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est pour répondre un petit peu à ce que tu dis. Bon, déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dès que tu veux commencer à travailler dans un domaine, le Yetzer Hara, il va se déchaîner contre toi. Déjà. Donc, pas de panique, c'est que tu es sur le bon chemin. Ouais, déjà. Ben oui. Ben oui, mais c'est la vérité. C'est la vraie vérité.
Ouais, des fois, on a peut-être au repos.
Il n'y a pas de repos, c'est ça ce que je te dis.
Il n'y a pas de repos, tout est dans la tête.
Écoute, il n'y a pas de repos. Et sache une chose, à partir du moment où tu commences à faire Avodat Hashem, tu prends conscience... D'accord ? Que à Kadosh Baruch Hu, tu veux venir servir Hachem, le Yetzer Hara, il va dire, celle-là, elle va m'abandonner. Celle-là, elle ne va plus faire partie du club, même pas en rêve. Donc, il va te mettre dans des situations, dans le machin, qu'avant, tu pouvais rester calme et maintenant, tu t'énerves. C'est pas grave. Tu dis Hachem, je m'accroche quand même. Écoutez cette Torah, elle est magnifique, c'est la 152. J'ai rien compris encore, mais c'est pas grave. Mais je sens que c'est une bombe. Ouais, non, mais c'est vrai, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Il y a marqué comme ça. Lorsqu'une âme sainte descend... Je suis sûre, de toute façon, que on va... Peut-être je comprendrai quelque chose, parce que quand on fait en Sichat Haverim, il y a de la lumière. Alors, je me dis... Lorsqu'une âme sainte descend dans ce monde avec les ramifications qui lui correspondent, c'est-à-dire que des fois, il y a des âmes, d'accord ? C'est des âmes. Et en dessous, elle, il y a d'autres âmes qui dépendent d'elle, d'accord ? Donc, on a toujours des âmes qui dépendent de nous. C'est des ramifications. Donc, qui lui correspondent. La carapace spirituelle se met alors à l'entourer. Ne reste alors qu'une ouverture vers la foi qui reste entrouverte. Mais à cause de leur faute, Chas v'Shalom, les ramifications sont écartées de là-bas. C'est-à-dire chassées du seuil de la foi. En conséquent, celle-ci trouve alors... Celle-ci se trouve alors dans l'incapacité d'y entrer, donc sur le seuil de la foi, c'est-à-dire de se rapprocher de leur source, qui est cette âme.
Oui, parce que c'est, elles sont pas, les ramifications, elles ne sont pas capables de rentrer dans l'âme qui les lie. C'est ça ?
Oui, l'âme, elle ne veut pas descendre.
Non, elle est là, elle est arrivée. Répète ce que tu as dit.
J'ai que il y a une âme. Et tu dis qu'il y a une ramification, c'est-à-dire que c'est comme si
il y a d'autres âmes
avec d'autres âmes qui sont plus faibles, je pense. Je crois, hein.
On va dire.
On va dire.
On a le droit de dire. On vous dit ce qu'on veut.
Elles sont pas capables de se rattacher. Elles sont trop faibles ou
non, je sais pas.
Pas en adéquation.
Bon, ok, on va voir. En effet, non. Après, il dit comme ça. En conséquent. Celle-ci se trouve alors dans l'incapacité d'y entrer, c'est-à-dire de se rapprocher de leur source, qui est cette âme. En effet, il arrive qu'un homme soit éloigné et affaibli dans sa foi, comme le disent nos sages au sujet de la terre d'Israël, où les défunts ne méritent pas d'y être enterrés. Mais malgré les fautes engendrées par les ramifications, l'obstruction de cette entrée qui mène à la foi n'est que temporaire, et cette porte s'ouvre à nouveau par la suite, comme par le passé. Autrement dit, au moment où celui qui n'est pas digne de se rapprocher de cette âme doit être rejeté à l'extérieur, les forces du mal se mettent alors... Les forces du mal se mettent alors à l'encercler, à se renforcer et à bloquer cette porte qui le mène à la foi, l'empêchant ainsi d'y pénétrer durant un laps de temps précis. Immédiatement après, la porte s'ouvre comme auparavant. Ça veut dire qu'il y a l'âme, d'accord, cette âme sainte qui est descendue avec toutes les ramifications. Automatiquement, d'accord, il va y avoir la clipa, donc les carapaces spirituelles qui vont se mettre à l'entourer. Donc, mais il y a toujours cette émouna, la porte de l'émouna qui reste un petit peu entrouverte, qui peut se fermer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, si cette âme, les ramifications, elles se détachent, en fait, il dit comme ça.
Conclusion, on ne peut pas y arriver seul.
On ne peut pas y arriver seul. Attends, on ne peut pas... D'accord, tu sais quoi? En gros, on ne va pas pouvoir y arriver seul sans l'âme. Attends. Cependant, maintenant, si dès que tu t'attrapes à cette âme-là, je sais que tu penses au tzaddik, mais non, ouais. Tu vas voir qu'il y a une histoire. Ouais, je sais. Moi aussi, dès que je dis ça, je dis bon, c'est le tzaddik. Mais non, tu vas voir, il vient nous embrouiller.
Elle au milieu, je dois être dans la mythique.
Attends. Écoute ça. Écoute ça. Qu'est-ce que t'as dit? On peut pas y arriver seul. C'est sûr et certain parce que tu dépends de cette âme. D'accord?
Yael, t'as du taf.
Après, écoute, non, nous on est avec Rabbeinu. Attends, après, regarde ce qu'il dit. Cependant, lorsque les fautes deviennent trop nombreuses et que les forces du mal se renforcent pour bloquer la porte afin de l'empêcher d'y pénétrer, donc on parle de la personne indigne, on craint alors et on soupçonne que la porte ne se ferme totalement, chas v'shalom, à cause des multiples écorces qui se sont renforcées tout autour. Autour de quoi? De l'âme. Tu vois, là déjà. Attends, de l'âme. Attends. Ben non! Parce que maintenant, les ramifications, elles se sont éloignées. Donc, il y a maintenant des clipotes qui se sont mises autour de cette âme. Et donc, ça va être un empêchement pour les autres de venir se rattacher à leur source. C'est pourquoi... Alors là, c'est là où maintenant, je commence un peu à ne rien comprendre. C'est pourquoi on poste à l'emplacement de cette entrée un homme craignant Hachem. Spécialement désigné et chargé de veiller à empêcher quiconque d'y entrer. Qui est cet homme qui a de la Yirat Shamayim? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ceci sera bénéfique contre la carapace du mal qui encercle, car il lui sera impossible de se rapprocher et de se répandre jusqu'à la porte à cause de la présence de cet homme craignant Hachem et qui se tient là-bas. Attends. Mais, en faisant preuve d'un dévouement total à cette cause, à savoir que si l'on se dévoue corps et âme, afin d'entreprendre un voyage en ce sens, et se rapprocher du tzaddik, du juste, il devient alors possible, malgré tout, de s'attacher à lui. Donc il y a le juste, le tzaddik, et il y a l'homme craignant Hachem. Tu vas dire qu'il s'est démultiplié? D'accord, j'ai pensé à ça. Mais... Et cependant, la sagesse du juste, soit sa pensée véritable, ne pourra pour autant éclairer encore cet homme. Que Hachem hâte la délivrance collective et générale. Amen. Tu penses que c'est le tzaddik qui s'est démultiplié? Je sais pas. Il te dit comme ça, consulte le Zohar, Parashat Trouma, rapporté par ailleurs par le Pardès, bon c'est tout des trucs, en Terre Sainte, tout est rectifié. Regarde attentivement ce qui est écrit au sujet d'un voile fin déployé à l'entrée, ce qui a la lumière du secret qui vient d'être exposé. Fais référence à cet homme craignant Hachem qui, comme un voile fin, empêche, selon les termes du Zohar, de franchir le seuil qui mène à la foi. Et cependant, l'impureté également ne peut s'y étendre en raison de ce même voile fin. Cette idée correspond précisément à ce qui vient d'être exposé au sujet de cet homme craignant Hachem. Réfléchis bien à ceci et tu comprendras des merveilles. Regarde également ce qui figure dans l'ouvrage « Tout va à Retz », c'est un livre, dans lequel il parle au sujet de la terre d'Israël. Comprends bien ceci afin d'établir des comparaisons, car tout ceci n'est qu'un seul et même concept. Celles qui ont le Likutei Moharan, c'est la Torah 152. Alors, moi, depuis hier que je l'ai lu, j'arrête pas de dire « Bon, Rabbeinu, éclaire-moi, ce que tu veux me donner, tu me donnes, Hachem ». Si tu veux, je peux tout comprendre. Si tu veux pas, je comprends rien, mais c'est pas grave. Je vais la relire. Donc, on n'a qu'à peut-être toutes la relire, celles qui veulent. Et peut-être chacune, elle peut faire ses recherches, faire Hitbo des doutes, quel, demander à Hachem, 551, Torah
552.
Donc ce que je veux t'expliquer, enfin je sais pas pourquoi je t'ai lu ça en fin de compte, parce que, mais sûrement, peut-être que ce sera notre Torah collective, mais ce que je veux te dire c'est que chaque fois qu'on veut se rapprocher d'Hachem, chaque fois qu'on veut travailler une mida, la colère, la patience, la emouna, tu es sûr que tu vas être mise à l'épreuve. Mais comme disait Rabbeinu, tiens bon. Et chacun de nous, on doit tenir bon quoi qu'il arrive. Voilà, Bezrat Hashem, je vous souhaite à tous un Purim Sameach avec beaucoup, beaucoup de simcha, Bezrat Hashem. Et n'oubliez pas, pour celles qui ont des jeunes filles, le Tehilim, tout le Sefer Tehilim. C'est Rabbi Nachman. C'est du Likuté Moharan. Ah oui, je l'aime bien sûr, pardon.